9h, dans le bureau de Par Jupiter.
Mais n'importe quoi, Georges, j'ai 1000 ans, là.
Salut, Charline.
Ouais, salut, les amis. Non, mais que ça m'énerve.
Qu'est-ce qui se passe? Manuel Valls a encore tweeté un truc?
Non, mais c'est Wikipédia qui raconte n'importe quoi sur mon compte, là.
Bah, ça peut pas être pire que Juliette, ils disent qu'elle a animé Interville.
Bah, elle a vraiment animé Interville.
Donc. Ah bon? Oui, donc, mais c'est vrai, enfin, moi, j'ai pas obtenu ma licence en trichant.
C'est écrit où, ça, hein?
Mais attendez, moi, c'est beaucoup plus grave. Wikipédia prétend que j'ai commencé à France Inter en filant une cassette à Pascal Clark.
Bah, ah quoi? Bon, elle est chouette, Pascal Clark.
Ah, la question, une cassette, Juliette! Bon sang, mais c'est comme si j'étais née dans les années 60. Moi, j'ai envoyé un CD,
oui,
moi.
Oui, mais cassette, CD pour les millennials, c'est la même soupe, hein.
Ouais, puis de toute façon, tu peux faire rectifier ce que tu veux, hein. Tu seras effacé de la même manière.
Hein?
Ah bah oui, moi j'ai tout bien lu le livre de Titiou Lecoq, Pourquoi l'histoire a effacé les femmes.
Et donc?
Et bien la conclusion, c'est que dans 50 ans, les gens ils diront, Par Jupiter? Ah ouais, l'émission d'Alex Vizorek et Guillaume Meurice.
Bah, ce qui est pas complètement faux, hein.
Pardon?
Non mais c'est pas complètement juste, je tiens aussi.
Alors moi depuis 8 ans là, moi, je me tue à faire cette émission tous les jours et on va m'effacer, c'est ça?
Ouais.
Au profit de ces deux trains de savates.
Et au dos, quand même, c'est pas...
Ah bah c'est pas de notre faute, hein. C'est l'histoire, ma pauvre, avec un grand H.
Ah oui, un grand H comme homme, hein.
Bah, attendez, ça va, une bête émission de radio, là, c'est pas l'histoire non plus, c'est des blagues.
Bah, des blagues avec un grand B comme bonhomme.
Donc on s'en fout, je veux dire, même Alex Guillaume, ils seront effacés.
Et oh non, je... Bah non, doucement.
Effacés.
Avec deux F comme femme. La France Inter et bienvenue à l'écoute du bras armé de la bien-pensance.
Ah oui, j'aime bien ça.
Voici la devise, les feuilles mortes se ramassent comme Anne Hidalgo dans les sondages.
Oh la vache.
Voici le sommaire. Le footballeur Patrice Evra a révélé qu'il avait été victime d'agressions sexuelles et de viols à l'âge de 13 ans. La presse utilise désormais le terme agression sexuelle et la distingue du viol. La presse tient compte de la nuance. On avance un peu. Et c'est sans doute pourquoi Coluche, je vous préviens, c'est chaud, Coluche serait peut-être en prison aujourd'hui.
Et puis, je vous fais remarquer que violer, c'est quand on veut pas. Moi, je vous aime.
Voilà.
Juliette. Merci.
En prison.
Tout n'a pas bien vieilli, là.
Adapté Germinal en série, France 2 vient de le faire et les téléspectateurs ont regardé. Sauf qu'adapter un roman, c'est faire des choix d'adaptation. Et tous... ces choix d'adaptation n'ont pas été du goût du public. Pourtant, on imagine bien que tout a été réfléchi, pesé en amont.
Tu imagines si on proposait Omar Sy pour un biopic sur Johnny Hallyday?
Et de consentement, il en est désormais question pour claquer la bise. La pandémie a stoppé net le rituel de salutation qui réapparaît de ci, de là, depuis la vaccination. La bise est maintenant réservée à un cercle restreint, ce qui soulage certaines et certains, mais ce que d'autres déplorent.
Oh mais t'inquiète, ça... C'est comme un check de la bouche.
Bah ouais, évidemment. Et à mes côtés aujourd'hui, Juliette Arnaud.
Oui, et à nos côtés, Charline, une équipe de gens qui, en l'honneur de notre invité, réhabilite. Qui est-ce qui pilote le chantier de rénovation des mœurs des gens du Nord, tant sur le plan familial que gastronomique? C'est évidemment Aymeric Lompré.
Bonjour
Aymeric.
Bonjour, bonjour.
De quoi vous allez nous parler aujourd'hui?
Aujourd'hui, je sais pas trop, mais aujourd'hui, c'est ma fête.
Oh
oui.
Bonne fête, Aymeric.
Merci.
Vous êtes catholique, vous fêtez les saints Aymeric maintenant.
Tout à fait, oui.
Oh, d'accord.
Quand ça l'arrange. Qui est-ce qui renvoie aux petits, aux obscurs, aux sans grades et surtout aux sans micros, partageant ainsi aimablement ses droits d'auteur avec la crème de la crème? C'est Guillaume
Meurice. Je m'étais pas reconnu sur le coup, mais effectivement, c'est moi. COP26 oblige, je vais vous parler de réchauffement climatique avec des vrais experts cette fois-ci.
Les gens.
Et j'ai appris que c'est plutôt une bonne chose ce réchauffement par rapport à avant.
Il y avait des moins 30, la Seine était gelée.
Alors, on est pas mieux aujourd'hui, hein, quand même. Merde, mettez-nous la paix.
Et enfin, qui est-ce qui revalorise le niveau général du chroniqueur moyen de Par Jupiter? Et c'est un travail de titan. Ça tombe bien, elle est en titane, Isabelle Sorrente, bonjour.
Bonjour Juliette, bonjour les amis. Ben moi, je chroniquerai le magnifique livre de notre invité.
Et oui, car voici celle qui nous accompagne jusqu'à 18h. Vous êtes, je vous laisse nous l'annoncer, vous êtes Titiou Lecoq.
Ah mais voilà,
Inter.
Je la remets aussi.
Ah, bien sûr.
Charline Vanhoeker, Juliette Arnaud.
Ah, ça c'est vous.
Par Jupiter.
Bienvenue, Titiou Lecoq.
Merci.
Alors, vous êtes essayiste et romancière, vous êtes une théoricienne du féminisme, vous avez contribué à populariser notamment la notion de charge mentale et le fait que l'intime soit une matière politique. Juliette avait chroniqué dans cette émission votre côté romancière, essayiste, avec Honoré et moi, votre livre sur Balzac, et vous venez de publier Les Grandes Oubliées, pourquoi l'histoire a effacé les femmes, c'est paru chez l'Iconoclaste. Juliette et Isa, nous avons deux spécialistes.
Toutes les filles et les femmes présentes à cette table ont été à l'école et ont eu des cours d'histoire et ont eu des manuels d'histoire où il y avait écrit de tout temps les hommes. On a toutes constaté que les femmes étaient prodigieusement absentes des manuels d'histoire. Ce qu'on apprend dans votre bouquin, c'est que si elles sont pas dans les manuels d'histoire, elles ont été pour autant dans l'histoire, voire même dans la préhistoire. Et en plus, nous, les étudiantes en général, c'est vrai, comme vous, on n'est pas contrariantes comme vous le faites remarquer dans le livre. On nous apprend que Ronsard est un génie, même s'il a des poèmes parfaitement misogynes, on intègre Ronsard, génie.
Allez, on cancelle Ronsard. Ouais. Ah bah d'accord.
Ah bah, et Voltaire aussi. Relisez Mignonne à l'en voir sous la rose, vous verrez.
C'est ça aussi le problème, vous êtes docile, alors bah du coup, on en profite quoi. Je fais le rôle d'Alex Vizorek aujourd'hui.
Quand est-ce que vous avez eu le déclic là-dessus? À quel moment, si pendant vos études, vous n'avez pas remis en cause donc Ronsard était un génie, à quel moment vous avez commencé à vous dire « il y a peut-être une baleine sous gravier »
En fait, assez récemment, parce que ça tient bien comme pensée. Mais vu que moi, si j'avais posé la question à des profs, genre « Ah, pourquoi toujours les hommes dans les manuels d'histoire et pas les femmes ?» On m'avait donné une explication que j'avais tout à fait comprise, qui était « Les femmes, elles ne pouvaient pas faire l'histoire parce qu'elles faisaient des enfants. » Et qu'il faut choisir entre les deux. Et donc voilà, elles avaient été empêchées. C'était pas parce qu'elles étaient moins intelligentes, tout ça. Juste, c'était une question matérielle. Et donc, en travaillant sur ce livre, je me suis rendu compte que c'était un mythe et que pour les historiennes, ça avait même un nom. C'est le mythe de la femme empêchée. Et que ça avait jamais empêché le fait de faire des enfants, avait jamais empêché les femmes de participer aux batailles, aux grandes inventions, aux réformes politiques, à être là tout le temps présente.
Et dans tous les grands moments de l'histoire française, par exemple, le Moyen-Âge, voilà, les cathédrales, la résistance.
Et même dans l'armée révolutionnaire. Enfin, voilà. Moi, typiquement, ça, j'ai découvert en faisant des recherches à un moment sur la Révolution, je me rends compte que en 1793, on exclut les femmes de l'armée. Je sais pas. Bah, parce qu'elles y étaient avant. Alors, ça, c'est vraiment dingue. Et donc, je fais, on va chercher quand même. Et voilà.
Et alors moi, une des nombreuses choses que j'ai appris en lisant ce livre, et Isa, je crois que c'était pareil, le premier texte connu, c'est 43 siècles avant Jésus-Christ. Il est écrit par une femme qui s'adresse à une autre femme, une déesse, mais peu importe, c'est une femme. Alors, à quel moment on a loupé le virage ?
Alors, ça, c'est quand même fou, cette histoire de Aîné de Hannah. En fait, les premiers écrits qu'on ait, c'est de la comptabilité, parce que l'être humain est ainsi fait, qu'il commence par compter d'abord. Après, on a des textes administratifs, parce que c'est important, l'administration. Et donc, le plus vieux texte qu'on a, qui soit ni de la compta, ni de l'administratif, et qui soit écrit à la première personne, effectivement, a été écrit par une femme. Aîné de Hannah, qui était une grande prêtresse. Et à quel moment on loupe le coche? Il y a un ensemble de mécanismes un peu complexes, mais qui vient beaucoup pour nous du 19e siècle, puisque nos manuels scolaires et le moule de l'école, c'est le 19e siècle, et c'est vraiment le siècle où, comme on pense que la place des femmes est naturellement à la maison, on se dit que ça a toujours été le cas. Donc typiquement, quand au 19e, la préhistoire, l'étude de la préhistoire se met en route, on se dit, la préhistoire, ça devait être comme de nos jours, c'est-à-dire que elle balayait la grotte, quoi. Et donc on va avoir les femmes, si on les cherche pas, on les trouve pas dans les sources historiques. Comme on part du principe à ce moment-là qu'elles n'ont rien fait, on va pas les chercher. Et c'est vraiment les historiennes des années 70, sous l'influence féministe, qui vont commencer à se dire, et si on cherchait les femmes dans les registres et dans les sources, et là, elles vont les trouver.
Là, tout à coup, ça paraît. Moi, je pensais aussi au néolithique, c'est-à-dire 10 000 ans avant Jésus-Christ, il se passe un truc assez essentiel et qui va un peu quand même commencer à changer la place des femmes potentiellement dans l'histoire et la préhistoire. Il se passe quoi, moins 10 000 ans avant Jésus-Christ ?
Alors, il se passe plein de choses, et notamment le néolithique, c'est ce qu'on appelle la révolution néolithique, c'est le moment où on va se sédentariser. Donc on était plutôt nomades, on s'installe à un endroit, et on va commencer à domestiquer la nature, donc, et les animaux, et les céréales, etc. Et ce que voient à ce moment-là, ce que constatent les historiens et les historiennes, c'est que vont apparaître des différences sociales dans les sépultures, parce que c'est ça qui nous reste. On va voir apparaître des tombes de pauvres et des tombes de riches à ce moment-là, et on sait aussi par les recherches que les femmes au paléolithique dans la période d'avant, elles contrôlaient leur fécondité, donc elles avaient un enfant tous les 3-4 ans, et qu'en fait avec la sédentarité, elles commencent à avoir un enfant tous les ans. Et tout ça se lie aussi à autre chose, qui est que on a beaucoup de représentations de vulves dans les grottes et dans les peintures avant.
Ça, c'est magique. Alors.
Ça, c'est magique.
L'invisibilisation de la vulve.
De la vulve. Et donc, la vulve disparaît à ce moment-là. On va commencer de plus en plus à représenter des hommes avec des armes. Et donc, ça veut dire, ah tiens, culturellement, on se dit, il s'est passé quelque chose à peu près à cette époque-là.
Une vulve dans une grotte. Vous avez la mise en abîme, Émeric Lompré. Je voudrais un curé Émeric dans la conversation, oui. C'est pour ça.
Elles sont où ces grottes?
En fait, dans tout ce qu'on lit dans ce livre, c'est qu'il faut avoir des raisonnements contre-intuitifs. Par exemple, que la cueillette, contrairement à ce qu'on se figure, c'est super exténuant. Alors que nous, on se figure que les chasseurs, c'est compliqué. La cueillette, ça va, c'est facile. Que la Renaissance, bah, c'est pas tant que ça une Renaissance. Et que la Révolution, c'est sans les citoyennes.
Ouais, voilà. Bah, la Renaissance, c'est un super exemple parce que on a un peu cette idée qu'on apprend une histoire objective. En fait, le terme Renaissance, il est pas du tout neutre. Enfin, il est hyper positif et vraiment. Ah oui. Et on nous apprend donc que c'est une période absolument super. Et quand on prend le prisme de l'histoire des femmes, bon, c'est quand même l'époque de chasse aux sorcières, quoi. Donc, c'est une époque qui est aussi extraordinairement misogyne, qui correspond pour les femmes à une perte de droits, donc elles sont exclues des corporations, de plein de choses. Et donc le terme Renaissance, on se dit, il y a des historiennes qui disent, bah, peut-être on pourrait renommer avec un terme plus neutre. Voilà, peut-être.
Modernité tardive.
Hein, voilà, modernité tardive. Bon, peut-être, mais voilà, c'est en discussion.
Titiou Lecoq, qui publie donc « Les grandes oubliées, pourquoi l'histoire a effacé les femmes » avec une préface de Michel Perrault. Et tout à l'heure, Isabelle Sorand chroniquera le livre que nous avons beaucoup aimé. Titiou Lecoq est avec nous jusqu'à 18h.
Travaillez plus, gagnez plus, vous aurez moins de temps. Le temps, c'est de l'argent, vous aurez moins d'argent. J'aime pas travailler debout, j'aime pas travailler assis, j'aime pas... Moi ce que j'aime c'est glander. Quand je glande faut pas m'emmerder. Et pour être sûr de me lever tard, tous les soirs je me fume un pétard. J'aime pas travailler patron. Tu crois que je te prends pour un con?
Ça boule sud, hein.
Tu aimerais bien me virer si je t'avais laissé m'embaucher. J'aime pas travailler debout, j'aime pas travailler assis, j'aime pas travailler à genoux, j'aime pas ouais, travailler du tout. Même si tu me trouves un emploi, sache que je ne bosserai pas pour toi. Je préfère rester au chômage, à me dorer le cul sur une plage. Et si c'est pas très lucratif, moi j'essaye de rester positif. Si je dois redoubler l'effort, alors directement je m'endors. J'aime pas travailler debout, j'aime pas travailler assis, j'aime pas travailler à genoux, j'aime pas ouais, travailler du tout. Et si un jour, un beau matin, le roman allait au turbin, je prendrais mes jambes à mon cou et je partirais pour le Pérou. Dans la cordillère des Andes, je créerais la République d'Aglan. Travailler sera interdit, maximum syndical garanti. Ce sera un pays sans banque, ce sera un pays sans banque. Et tant qu'ils sourront à moi joint, je n'aurai plus qu'à lever la main. Je ne travaillerai jamais debout, pensez pas me faire bosser assis, encore moins faire ta fée à genoux, je ne travaillerai plus du tout. Finalement, je ne travaille pas, papa, je ne cherche même pas d'emploi. Et je reste là, vivoter.
Ce soleil sans me préoccuper, ouais.
Émeric Lompré connaît les Oufris Maracas par cœur. J'aime pas travailler sur France Inter. Et venez voir sur franceinter.fr la vidéo et découvrez la nouvelle coupe d'Émeric Lompré. Nous recevons Titu Lecoq aujourd'hui. Et donc, il y a autour de la table...
Ah bah des artistes, c'est des artistes. Émeric Lompré, vous l'avez entendu chanter. Isabelle Sorand, vous allez l'entendre déclamer. Et puis...
Guillaume Meurice, vous allez l'entendre informer.
Il faut pas de vraies informations pour vendre un journal.
Le journal de presque 17h17.
Non mais c'est formidable, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est vos impôts ! Ce sont des gens qui font de la propagande avec votre argent ! C'est ça, France Inter !
Et on commence tout de même par les titres.
Oui, dans ce journal, on parlera du départ d'Angela Merkel.
Oui, aimée par certains, détestée par d'autres. Elle a
ouais,
toujours...
Ouais, attendez, qu'est-ce que vous faites là ?
Je fais l'éloge funèbre de Merkel.
Bah elle est pas morte, enfin !
Ah pardon, autant pour moi, bah, vous avez dit le départ, ça m'a...
Bon allez, on parlera aussi de Jean-Pierre Raffarin.
Aimé par certains, détesté par d'autres.
Guillaume, mais il n'est pas mort non plus.
Ah, vous êtes sûr de ça ?
Ah oui, ça oui.
À vérifier quand même ça, hein. Je suis pas sûr. Hein.
Et bon. Enfin, on parlera de la planète.
Ah là, c'est bon. Aimé par certains, détesté par d'autres. Là, vous m'arrêtez pas, là, Charline, c'est bon ?
Non, parce qu'on est foutus. Là, on va tous crever.
Voilà, d'accord. Faire l'éloge funèbre de la planète. Bon, alors, avant, quand même, on commence par la politique, bien sûr.
Barbara Pompili se dit favorable au débat sur l'interdiction de la chasse le week-end.
Et ça, c'est une très très bonne nouvelle. Elle pourra peut-être convaincre la ministre de l'Environnement faire une proposition de loi. Voilà, comment ça...
Bah, c'est elle, la ministre de l'Environnement.
Mais non. Bah, non, sinon, elle aurait fait directement une loi qui serait débattue dans l'hémicycle, au Parlement.
Enfin, oui, pardon, je dois me tromper.
Mais c'est vrai, sûr. Ouais.
Mais alors, c'est qui, Barbara Pompili?
Alors ça, le mystère reste entier.
On cherche. Interrogé hier, Jean-Pierre Raffarin a déclaré... il n'y a pas sur la scène politique quelqu'un qui ait un leadership comparable à Macron.
Le symptôme d'un AVC, c'est pas de dire comme ça des phrases incohérentes.
Non, mais Guillaume Jean-Pierre va très bien, je vous jure.
Ben, c'est pas encore pire de dire ça quand on va bien, en pleine forme. Je suis inquiet.
Politique toujours, hier, Emmanuel Macron a fait ses adieux.
Ouh, yeah, ça y est. On y est, mais quand même, on a attendu des plombes, excellent.
Mais j'ai pas fini ma phrase.
On lui souhaite quoi ?
J'ai pas fini ma phrase.
Ah bon ?
Emmanuel Macron a fait ses adieux à Angela Merkel.
Ah, je me suis un peu emballé là, non ?
Oui, un peu.
Ça s'est vu ? Ouais.
Non, un peu.
Bon,
un
ok.
Peu.
Justice, enchaînons alors, d'accord.
Malgré un recours, Éric Dupond-Moretti reste mis en examen pour prise illégale d'intérêt.
Eh ben, il n'aurait pas été ministre très longtemps, on lui souhaite bon vent.
Non, mais il a pas démissionné.
Donc non, alors là, c'est... Non, quand même, Charline. Il est ministre de la Justice, il ne peut pas être mis en examen et rester en poste.
Bah, si.
Non, mais non, en Corée du Nord.
Non, en France.
Non, mais c'est le pays de Robert Badinter, de Danton, de...
Ouais. Bon, bah on va enchaîner.
Non, on enchaîne.
Allez, un nouveau challenge fait son apparition sur les réseaux sociaux. C'est le hashtag Nonut November qui concerne les hommes et qui consiste à ne pas éjaculer pendant tout le mois de novembre.
Eh oui, Émeric, raclette. Perdu pour Émeric.
Justement, aujourd'hui, c'est la Saint-Émeric que la journée mondiale du sextoy.
Coïncidence. Je ne crois pas. Non, il n'y a pas de coïncidence.
SNCF, maintenant, les grands billets de train cartonnés ne seront plus vendus aux automates.
Oui, une pensée pour tous ceux qui pourront plus faire de tonkar dans le train en allant à un festival de reggae.
Ah, si vous avez ri et compris rire cette blague, vous êtes passé d'une peine de prison, selon Gérald Darmanin.
Voilà, Rastafari, les frérots.
Moi, j'avais pas compris, par exemple.
Voilà, et Juliette a très bien compris.
Dans la Creuse, des thés dansants et des soirées moules frites entraînent une flambée de Covid chez les seniors.
Oui, une info qui redonne le moral.
Non, ça, pas.
Si, ça nous apprend qu'il reste des habitants dans la Creuse.
Mais arrêtez, on va se fâcher avec nos auditeurs qui habitent là-bas.
Alors, je veux bien qu'il y ait des gens qui habitent là-bas, mais de là à ce qu'ils captent la radio, non, faut pas exagérer.
Bon, allez, on enchaîne.
Allez, oui, c'est mieux. Allez, terminons.
Terminons. Selon des chercheurs de l'Institut de technologie du Massachusetts, le Covid...
J'aime bien quand vous le dites.
Oh là là.
Le COVID... J'ai mis que pour ça. Que pour ça, parce que j'aime bien. Vous pouvez redire ?
Le Massachusetts.
Ouais, j'adore.
Le Covid pourrait provoquer des acouphènes et des pertes d'audition.
Ouais, c'est là qu'on réalise que les programmateurs musicaux de France Inter ont chopé le Covid il y a une bonne dizaine d'années, déjà.
Merci Guillaume Meurice. Titu Lecoq est en notre compagnie. Elle nous propose son livre Les Grandes Oubliées, pourquoi l'histoire a effacé les femmes. On va en reparler tout à l'heure avec Isabelle Sorrent notamment. Et puis dans ses titres, la presse fait désormais la différence entre agression sexuelle et viol. Alors on a un exemple avec le témoignage du footballeur Patrice Evra, l'ex-joueur des Bleus et de Manchester, qui révèle dans la presse britannique qu'il a subi les deux. à l'âge de 13 ans, des agressions sexuelles et un viol commis par l'un de ses professeurs, de ceux qui piétinent allègrement le consentement. Et ils sont encore nombreux, car le piétinement du consentement est davantage ancré que le consentement lui-même.
Tu peux pas demander à quelqu'un de coucher avec quelqu'un s'il y veut pas.
Oui, mais celui qui veut, il a un droit aussi. On va pas nier son droit à lui, c'est discriminatoire.
Waouh. On est d'accord que son programme, c'est pour légaliser le viol. Ça pose un problème à personne. Bravo, Gaïa, bravo.
Alors, attends,
super programme.
Pardon, Victor.
Violer pour moi.
Peut-être que tu serais plus partant si on incluait les enfants dans le système.
C'est Blanche Gardin et Éric Judor dans Problemos, un film qu'ils ont co-écrit. On s'est permis de mettre cet extrait parce que ça vient de Blanche Gardin, Éric Judor, d'où l'on parle, c'est aussi important. Les témoignages de Patrick Evra a retenu votre attention à plusieurs égards, Titou Lecoq, mais notamment celui de cette distinction qui est faite quand la presse relaye son témoignage, agression sexuelle dans le titre, c'est ça?
Notamment. Oui, et viol n'est pas dans tous les titres, c'est beaucoup agression sexuelle ou abus sexuel, qui est une espèce de formulation un peu vague, et lui a eu le courage justement de parler des deux et de dire qu'il avait été victime des deux, mais c'est, en fait ça a retenu mon attention pour une autre raison, c'est que ça fait longtemps que j'écris sur les violences sexuelles et que régulièrement dans mes articles je dis, ah mais vraiment ça va changer le jour où on aura, par exemple, un joueur de l'équipe de France de foot qui dira, bah j'ai été victime de viol, et là c'est arrivé et... Il ne s'est rien passé, en fait, mon pronostic est complètement tombé à plat.
Il n'est plus en équipe de France, donc c'est peut-être pour ça.
Alors, il n'a pas donné d'interview en France non plus, je me dis c'est peut-être ça, s'il y a une interview choc en France dans un média et tout. Mais là, pour l'instant, les reprises, oui, c'est déjà, c'est très atténuant, les formules, voilà, sont très agressives.
Alors que lui aimerait que son témoignage ait plus de portée, il le dit d'ailleurs, il explique, il a publié un livre, une autobiographie, où il témoigne pas beaucoup là-dessus, mais il explique beaucoup plus dans l'interview qu'il a donnée à la presse britannique. Et il dit que à 24 ans, quand il jouait à Monaco, il dit il y avait des accusations contre le professeur et la police va le questionner, veut savoir si lui aussi a subi des abus et il nie. Et il dit vivre avec ça est l'un de mes plus grands regrets parce que j'aurais pu aider tellement de gens. J'en ai assez de la masculinité toxique, dit-il. Pour mon père, pleurer était pour les faibles. J'ai perdu mon frère, j'ai perdu des amis, mais je n'ai jamais pleuré. Et ma mère m'a dit un jour, tu vas finir par exploser. Donc c'est le témoignage est très 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 fort.
C'est très fort, il a un vrai discours politique là-dessus et effectivement il témoigne et il a le courage de témoigner comme victime et en plus de dire ben, j'ai menti en fait quelque part, voilà, j'ai pas eu le courage de dire à la police ce qui s'était passé et il dit que en fait la personne à qui ça a été le plus difficile d'en parler c'est sa mère et c'est très touchant ce qu'il raconte sur sa mère et donc je me dis, on peut s'en emparer et pour libérer aussi la parole des garçons victimes, parce qu'il y en a quand même beaucoup, c'est très important et on a aussi en France beaucoup l'idée de, enfin, qu'il y a un discours qu'on entend sur les victimes, genre elles se victimisent avec leurs histoires d'agression sexuelle, etc. Et en fait, le statut de victime, c'est très courageux d'entrer dedans. Et c'est pas une facilité, c'est pas facile de dire qu'on a été victime d'agression ou de viol, et alors qu'on entend vraiment ce discours-là. Et donc voilà, je pense que lui le fasse, c'est important, et j'aimerais bien que ça résonne un peu, et pour l'instant, c'est un plat.
Et comme lui le dit, ça aurait résonné davantage s'il y a 24 ans, en pleine activité, il l'avait dit plutôt que... Mais bon, évidemment, la difficulté faisant, il a attendu 40 ans pour le dire.
Mais en espérant que ça va peut-être ouvrir la parole aussi dans ces milieux-là, dans les milieux sportifs, où pour l'instant, les filles ont commencé à témoigner, les championnes, mais c'est vrai que les champions, on ne les entend pas. Et statistiquement, on sait qu'il y a d'autres victimes.
Il y a un truc qui se passe aussi, c'est que tout le monde salue son courage, il a parlé, etc. Et quand c'est une femme qui parle tard... On lui dit, pourquoi elle a attendu? Ce qu'on dit pas du tout sur elle.
C'est juste.
Pardon, c'était ma petite minute féministe.
Vous êtes complètement woke,
c'est
vous.
Pourquoi? Mais alors, pour quelle raison ça serait?
Eh bien,
je pose la
question, je mets les pieds dans le plat. Mais
vous êtes complètement dans le wokistan.
J'ai ma carte
dans cette
du wokistan.
Celui qui doit encore avoir sa carte du wokistan, mais on progresse. Attention, c'est la touche écossaise, cette émission. La transition. Titou, attention, c'est chaud froid. Aymeric Lomprey.
Bonjour à tous, vous allez bien?
Ouais!
Mais j'ai rien entendu!
Bien.
Coolos. Moi, j'ai pas la grande forme. Alors, j'ai pas fait la fête. Genre, je vous vois venir. Ouais, Brick, il fait toujours la fête. Il sait faire que s'amuser. Alors que nous, on fait que travailler. On s'habille comme des vieux. Notre vie, elle est nulle. On a de l'arthrose et des poches à caca. Brick, emmène-nous dans ta vie de rêve. Boire des bières, faire l'amour, prendre du LSD sur des corps nus. Mais tu manges des saucisses au fromage le matin. Tu es tellement libre. Alors, non, vous vous trompez. J'ai pas fait la fête. Je suis juste allé boire un petit verre pour profiter des dernières terrasses avant l'hiver. Tu parles, j'ai pas profité
du tout. Hein. Toutes les 5 minutes, ouais, vous avez pas une clope ou un ticket resto? Alors moi j'étais là, ouais, mais est-ce que je peux d'abord vous commander un verre? Non, mais la misère est partout, la misère est partout. Là, j'ai pas le moral, j'en ai gros sur la patate, hein, je vous le dis. Le gouvernement m'a menti, voilà, on s'est tous fait pigeonner. On est des biches à traire. Et c'est pour ça peut-être que ça s'appelle le gouvernement. Parce qu'en fait, il gouverne et il ment. Il ment, le gouvernement, calme-toi, Aymeric. Arrête de donner des coups de pied dans la fourmilière. Tu vas encore avoir des piqûres de fourmis rouges partout sur ton zizi et sur ton torse. Non, mais le gouvernement, il a menti sur la théorie du ruissellement. Ah, les salauds! Je tombe des nues! Comme quand j'ai découvert que mon ex était parti avec mon meilleur pote. J'étais là, quoi? Comment ça? Mais moi qui pensais que j'étais juste fan de sauna mixte. Ah! Alors, le ruissellement, c'est une théorie qui dit que plus les riches, ils ont d'argent, plus ils le réinjectent dans l'économie. Mais en fait, ils l'ont réinjecté dans les paradis fiscaux et dans les voyages dans l'espace. Ah, on s'est bien fait avoir. Mais en même temps, c'est un peu notre faute. Hein. Je sais pas pourquoi on y a cru aussi. C'est peut-être parce qu'on a négligé la probabilité que les riches, c'est des gros enculés. Hein. C'est vrai que à chaque fois que je vois un riche, moi je me dis, c'est sûr, il a dû faire un coup de Trafalgar à quelqu'un pour en arriver là. Il est où, Charles Enguerrand, dans la cuisine, il prépare le pot-au-feu. Ah non, surtout pas, il va mettre du poisson dedans. Oh, non, c'est pas le genre de Charles Enguerrand. Il ne ferait pas de mal à une mouche. Il est où ton élevage de mouches? Il l'a étranglé. Bah, comment il a fait? Avec des toutes petites mains. D'accord. En tout cas, c'est pas du genre à tuer sa mère pour en arriver là. Elle est où sa mère? Il l'a étranglé. Mais comment il a fait avec ses toutes petites mains? Non, il l'a fait avec le bras. D'accord. En tout cas, il n'est pas du genre à remuer ciel et terre pour... Arrête! Bon. Non mais c'est hyper naïf de croire qu'en aidant les riches, ça va aider les pauvres. C'est quand on veut aider les pauvres, le mieux c'est quand même d'aider les pauvres. Enfin, tu vois, c'est non mais les mecs ils ont des logiques aussi. Tu sais, c'est comme si pour aller à la pharmacie, ils passaient par la rue Pierre Lenoir, quoi. Bah après faut connaître mon village, mais c'est parce que la rue Pierre Lenoir, elle est en travaux en ce moment. Enfin bon bref. Et non mais c'est comme si dans la rue il y a un SDF qui me demande une pièce et moi je vais voir le directeur de la banque à côté pour lui donner 2 euros en lui disant vous donnez au clodo ce soir, hein. Oui, je vais donner de l'argent aux pauvres. Donc plus d'accent dans les chroniques, hein, promis. Ou alors, c'est comme vouloir payer des grandes études à ton enfant en espérant qu'il te le rendra plus tard. Et au bout de 4 ans, tu te rends compte que le seul test qu'il a réussi, c'est celui du sida, tu vois. Ou alors, c'est comme... Vous dites que vous avez compris les comparaisons, parce que je peux faire que des comparaisons. Mais même Joe Biden, il a dit que ça marchait pas, le ruissellement. Joe Biden, c'est quand même pas Karl Marx, tu vois. Si un jour, Juliette Arnault, elle me dit « Non, tu peux pas prendre la route, là !» Je ne prends pas la route, hein, tu vois. Ou alors, c'est notre faute, on a mal compris. La théorie du ruissellement, ça veut dire qu'il nous pisse dessus. Et dans ce cas, effectivement, ça marche. Merci de m'avoir écouté.
Aymeric Lompré, vous avez perçu cette pensée complexe qu'il y a chez Aymeric Lompré dans le fond des choses. Et d'ailleurs, c'est mérité que vous disiez où vous jouez.
Oui, je joue.
Mais il faut qu'il s'en souvienne.
Oui, il faut que je m'en souvienne. Dimanche, je joue à Toulouse avec les Wiggles.
Ah, voilà, ouais. Très bien. Comme ça, c'est l'occasion d'approfondir cette pensée complexe.
Oui.
C'est un petit conseil que je donne.
Vous lui posez des questions.
Parce que là, on a eu envie de...
D'approfondir. On a toujours envie d'approfondir avec
Aymeric. Oui.
Il ouvre des portes.
Il y a des comparaisons. Le spectacle. Il s'appelle Tant pis son spectacle. Allez-y, c'est très très drôle.
Porte bien son nom.
Cause I only want you.
Otis Harding, Can't Hide It sur France Inter.
Vous je peux pas le cacher.
Par Jupiter.
Je traduisais.
Je peux pas le cacher. Vous écoutez Par Jupiter avec Juliette Arnaud, donc, qui est là. Titu Lecoq est en notre compagnie. Bah oui, des fois qu'il y a des gens, ils arriveraient. Ils se disent, tiens, c'est la première fois que j'écoute France Inter, il y a cette voix-là qui me dit quelque chose. Ah ben, c'est Juliette Arnaud.
Ah, c'est Juliette. Mais même moi qui écoute souvent France Inter.
Titu Lecoq, notre invité, vous publiez Les grandes oubliées, pourquoi l'histoire a effacé les femmes chez l'Iconoclaste. On reproche aujourd'hui aux féministes d'être un peu radicales. Or, dans l'histoire, elles ont parfois été plus loin qu'aujourd'hui, non ?
Même souvent, on peut le dire. Et ça, c'était vraiment jouissif, c'était de voir toutes les actions au moment où les féministes se coordonnent entre elles, donc au 19e siècle et au 20e, de voir les actions qu'elles mettent en place. Et il y a les féministes, genre Hubertine Auclert, qu'on voit sur les photos, c'est fin 19e. Donc là, ses jupons, son corset, son chapeau, elle a l'air très sévère, très sérieuse, voilà. Et en fait, elles attaquaient des bureaux de vote avec des pierres, quoi. Et elle le disait, Madeleine Pelletier disait, bah oui, c'est pas bien de jeter des pierres, mais enfin, si c'est le seul moyen de se faire entendre et d'avoir le droit de vote, bah, c'est ce qu'on va faire. Ouais. Et de fait, on a eu le droit de vote.
On pose ça là.
Et on a des pierres à disposition.
Et ça tombe bien, il va bientôt y avoir des élections.
Oh non, c'est bah arrêté, on va avoir des problèmes. Ne faites pas
bien.
Ça chez vous, laissez ça aux professionnels.
Guillaume Meurice. Je vais vous parler du rendez-vous de la COP26 aujourd'hui, qui est le rendez-vous de la dernière chance. Là, c'est la dernière chance. Enfin, c'est la 247e dernière chance. Mais c'est vraiment l'équivalent de Juliette en soirée qui dit « Allez, un dernier verre et je rentre. » Un rendez-vous 3 heures plus tard sur le dance floor à défoncer Gloria Gaynor. Bref, COP26. Alors, bon, il se passe des choses. Hier, ils ont invité Jeff Bezos pour parler écologie. Voilà, le patron d'Amazon qui envoie des fusées dans l'espace. Donc, c'est comme quand Jean-Luc Lahaye fait du soutien scolaire au collège. On n'est pas tranquille. Non, mais c'est vrai qu'il y a un truc, on écoute, mais une oreille un petit peu distraite. Déjà, au G20, ils avaient jeté une pièce dans la fontaine de Trévi pour se porter bonheur. Juste avant de lancer du sel derrière leur épaule et sacrifier une vierge. Calme-toi Jean-Luc Lahaye, on a déjà parlé de toi. Joe Biden, hier, c'est carrément endormi à la COP26 devant toutes les caméras du monde. Même Trump, à mon avis, n'aurait pas osé. Il aurait fait un barbecue, il aurait baissé son froc, mais il aurait pas osé pioncer. Quoi. Là, le gars, pionçage dans le plus grand des calmes. Alors, est-ce qu'on peut faire confiance à tous ces grands dirigeants pour sauver l'humanité ? Eh bien, je suis allé demander ce matin aux humains.
Ils nous bassinent de trop. En tant que ça, changement climatique, je n'y crois pas, moi.
Vous ne croyez pas au changement climatique ?
Non, il y a un changement climatique, comme il y en a toujours eu, dans les époques très lointaines, il y a eu des changements de climat et tout.
Donc vous ne croyez pas au changement climatique, mais vous croyez au changement climatique ?
Oui.
Oui, voilà. Mais oui, c'est précis, hein, tout ça. Voilà, donc il n'y a pas de changement climatique, mais il y a un changement climatique. C'est un sujet important, donc il s'agit d'être tout à fait méticuleux.
C'est un cycle normal, comme il y a toujours eu. Pour moi, c'est un changement normal.
Mais alors, sur quelles études vous vous appuyez pour...
Y a des scientifiques qui le disent. Hein.
Mais il y a quand même la quasi-totalité des scientifiques qui disent que le changement climatique est dû à l'homme.
Moi, je suis pas d'accord là-dessus.
Non, alors, c'est pareil, je suis pas d'accord avec plein de trucs. Moi, je suis pas d'accord avec la gravité. L'autre jour, je me suis cassé la gueule dans l'escalier, donc c'est non, la gravité. Moi, je suis pas d'accord avec ça. D'ailleurs, je suis même pas d'accord avec la mort. Qu'est-ce qui cause le plus de décès en ce moment dans le monde ?
La mort.
C'est la mort, et ça, on n'en parle jamais. Pourquoi ? Le lobby des pompes funèbres est très, très puissant, bien évidemment. Donc non à la science. Qui sont ces gens qui se permettent comme ça d'étudier le réel ?
C'est une secte, ils veulent le pouvoir, ils l'auront. Parce que comme toutes les sectes, ils attaquent d'abord les enfants. On leur fout ça dans le crâne.
Qui alors ? Quelle est cette secte ?
C'est une secte, puis il y en a. En plus, on n'entend que ça. Il pleut trop fort, changement climatique. Il y a du soleil, changement climatique. Où on va, là ?
Mais où on va ? Evelyne Delia, démission ! À un moment donné, c'est plus possible ce discours. Sauvons nos gosses. Un jour, ils voudront plus aller à l'école en 4x4. Charline, quand elle était gamine, elle faisait des actions avec la fondation Nicolas Hulot. Regardez ce que ça donne aujourd'hui. Elle tacle des affiches. Voilà, elle fait un promo du vin chaud. Elle est influenceuse vin chaud. C'est pas ça qu'on veut pour nos gosses, qu'on va où ? Alors, heureusement, la résistance est là, parce que bon, on ras-le-bol. Hein.
Parce que j'en ai par-dessus la tête d'entendre parler d'écologie. Franchement, les écologistes français sont pour moi lamentables. Hein. Ce ne sont pas des écologistes. Non, ils font de la politique de gauchisme, quoi. Avant tout, le woke.
Oh, le woke, en l'idéologie hein, dont on parlait à l'instant, qui vient du wokistan. Alors moi, je vous le dis, pour Halloween, j'ai pris un costume de woke et je suis allé devant CNews. Alors là, effet garanti, ils ont appelé le GIGN directement. Mais faut pas croire, c'est des sensibles. Hein. Ils font les gros bras, les bonhommes, mais dès qu'ils voient arriver un mec en sarouel, ils se font dessus. Hein. Regardez Emmerich, par exemple. Il a réussi à mettre la fachosphère en en PLS en deux phrases. Alors qu'Aymeric, normalement, c'est pas le gars qui fait peur, quoi. Un nutritionniste, peut-être. En général, non. Mais aux gens qui regardent ces news, voilà, il fait peur et on peut leur poser des vraies questions à ces gens-là.
Est-ce que Macron est le meilleur pour lutter contre le réchauffement climatique ?
Pour moi, oui. Parce qu'il est celui qui va progressivement amener les autres à la prise de conscience. Je pense que c'est une bonne chose que les gens progressent vers une prise de conscience progressive.
Alors, on est là pour progresser ensemble vers une progression progressive qui, progressivement, bien sûr, va nous apporter un progrès progressif. Ça, c'est vraiment très, très important. Il ne faut pas y aller trop vite non plus. Il faut se mouiller la nuque, hein, avant. Il ne faut pas y aller comme ça. Il faut se jeter dans le changement. Alors, vous allez me dire, mais comment on sait que ce monsieur regarde ses news ? Est-ce que tu ne serais pas de mauvaise foi ? Parce que des fois, vous me dites ça. Ça me vexe énormément. Eh bien, attendez, hein, je vous mets la suite.
Ce ne sont pas les écologistes radicaux du genre de Sandrine Rousseau, cette Greta Thunberg ménopausée, comme l'ont plaisamment surnommé les journalistes, qui arrivera à quelque chose.
Vous reprenez à votre compte cette expression-là ?
Je ne reprends pas à mon compte. Elle m'a amusé. Bien entendu, les féministes déchireraient celui qui l'a inventée. Et je ne veux pas me mettre mal avec elle.
Et oui, parce qu'il y a pire que le changement climatique, il y a les féministes. Ça fait vraiment flipper. Il est là, le vrai danger qui plane sur l'humanité tout entière. Reste quand même la seule question qui s'impose après avoir entendu tout ça. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de sauver l'humanité?
Merci Guillaume Meurice.
Je sais pas.
Bah écoutez, je sais pas. En tout cas, moi je note que de toute façon, avec le climat, le vin se réchauffe. Je vais avoir raison à un moment. Plus on approche de la saison. Voilà. On poursuit avec notre terroriste du féminisme, Titu Lecoq, et notre autre terroriste du féminisme, Juliette Arnaud, qui vous soumet un thème.
Malgré son succès d'audience, la nouvelle série de France 2 Germinal a suscité les foudres d'un certain nombre de téléspectateurs horrifiés par la modernité de l'adaptation. Et vas-y que c'est anachronique, et vas-y qu'un noir ne peut pas tenir un estaminet en 1885, et vas-y que les femmes ne descendaient pas à la mine. Et bien sûr, et ça c'est vrai, personne n'a l'accent ch'ti dans la série. Pour l'accent, on peut discuter, mais il y en a qui ont essayé et ça leur a pas trop réussi.
Et les habitants de la grande région Nord-Pas-de-Calais m'ont dit une fois, c'est pas une tiote région, faut pas une tiote voix.
Quelqu'un m'a dit une fois, c'est pas une tiote région, faut pas une tiote voix.
Et vous savez ce qu'on m'a dit une fois ? C'est pas une tiote région, faut pas une tiote voix.
Et lui, la tête de
et
la
puis vous savez quoi ?
Juste une
quelqu'un m'a dit une fois, c'est pas une tiote région, faut pas une tiote voix. Vous savez, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, comme on dit ici, les chiens font pas de cas.
Alors, vous aurez peut-être reconnu le naftif du Nord, Xavier Bertrand, pour ceux qui n'étaient pas sûrs. C'était un montage de l'émission Quotidien. Est-ce que vous avez vu cette série ? Pas Xavier Bertrand, sûr.
Non, malheureusement, non, je ne l'ai pas vu. Mais moi, parce que moi, Balzac, quoi.
Et oui, alors oui. Mais
voilà.
Justement.
J'ai vu Les Illusions Perdues, voilà. Oui.
Mais quand même, même si vous êtes team Balzac, est-ce que vous avez lu, est-ce que vous avez entendu parler donc de ce qu'on reproche à la série, à l'adaptation
Oui, mais alors, est-ce que c'est tant de gens que ça ? Parce qu'en même temps, visiblement, c'est un succès d'audience.
Oui, oui, tout à fait.
Ça me paraît être du niveau à peu près quatrième du prof de français qui nous explique une œuvre, la rencontre avec une œuvre, elle se crée à travers un regard sur cette œuvre. Et c'est ça, voilà, les grandes œuvres, on les réactualise sans cesse. Ça me paraît être, voilà, le minimum, si les gens veulent du Germinal qui bouge pas, qui relisent Germinal, quoi.
Oui, mais en plus, il y a des reproches qui sont faits, dedans. Alors, l'accent ch'ti, je suis d'accord, c'est vrai que personne ne l'a. Enfin, pour avoir regardé un épisode, ça c'est vrai. Mais, par exemple, il y avait des spectateurs qui disaient, oui, c'est honteux pour mettre en avant les femmes, on dit qu'il y a des femmes à la mine. Or, dans le roman de Zola, il y a des femmes à la mine. Et je pense que dans la vraie vie,
il y en avait, bien sûr, mais en plus, c'était un enjeu. À un moment, elles ont été interdites d'être dans un certain secteur de la mine, etc. Mais oui, il y en avait, il y avait des enfants aussi, et il y avait des Noirs en France à l'époque aussi.
Et oui, c'est ça, en fait, il y en avait. Voilà. Ouais, et par rapport, donc, vous, votre grande idole, c'est Balzac, comment on fait ?
Allez-y.
Non, parce que le 19e, c'est une période qui est un sommet de misogynie. Alors, comment on fait pour continuer quand même à aimer follement Balzac, qui parfois est d'ailleurs tout à fait du côté des femmes.
Allez,
pas
on cancel Balzac aussi.
Il ne s'agit pas de le canceler, il s'agit de
d'avoir un regard. Oui. Oui, tout à fait. Non, mais alors moi, c'est aussi pour ça que j'aime Balzac. C'est que Balzac n'était pas alors. C'est pas Virginie Despentes à la Monarchie de Juillet, mais il était quand même un peu féministe sur certains aspects et complètement misogyne sur d'autres.
Sur certains personnages en plus.
Mais voilà, il a fait entrer les femmes en littérature, il a fait plein de trucs incroyables. Donc j'arrive à composer et après on peut être fasciné par quelqu'un sans valider 100% de ce que cette personne a écrit. Et ça c'est une chose que je remarque de mon usage des réseaux sociaux, c'est compliqué de dire on peut ne pas être d'accord et c'est pas hyper grave. Et ça, je sais que voilà, c'est pas un discours évident.
Ouais, mais sais. N'importe quoi.
Donc, je suis pas d'accord avec tout ce qu'a écrit Balzac. Voilà.
Et, ça et
je
l'aime pas l'aimer follement.
Voilà. Mm-hmm.
Pareil avec Éric Zemmour.
Voilà. Et rapidement, l'adaptation au cinéma, Illusion perdue, vous a.
C'était génial.
Ah, ouais. c'était trop bien. Non, mais alors après, oui, c'était pénible pour la personne qui a vu le film avec moi. J'étais, oh, t'as vu les ananas? Tu te souviens quand je t'ai raconté l'histoire des ananas?
Enfin, elle vous a enthousiasmé. Alors, c'est ça le film de Xavier Jeannoli.
Et je rappelle Honoré et moi, bien sûr, le livre que vous avez consacré à Balzac. Isabelle Sorrente, vous avez lu le dernier ouvrage de Titiou Lecoq, préfacé par Michel Perrault, Les grandes oubliées, pourquoi l'histoire a effacé les femmes.
Et j'ai adoré. Il est des personnages qui hantent leurs auteurs et leurs autrices, et des livres qui hantent les lecteurs. Le vôtre, Titiou Lecoq, est de cela. Tourner ses pages, c'est faire apparaître des visages de femmes dont nous ne savions rien, dont les noms nous sont trop souvent inconnus, et pourtant ces femmes fortes, ces femmes qui ont fait l'histoire avant d'être effacées des manuels jusqu'à ce que leur nom tombe dans l'oubli, ces femmes, ce sont nos ancêtres. Vous lire, c'est un peu comme dévoiler en fait un double secret de famille. Les femmes fortes, courageuses, guerrières ont existé, secret 1, et les femmes fortes, courageuses, guerrières ont été effacées, secret 2. Elles ont existé et vous les nommez. Votre livre pourrait se lire comme une longue invocation aux ancêtres qui va de la préhistoire à nos jours. Une invocation qui ne manque pas d'humour. On nous a raconté que d'elles, il n'y avait rien à dire puisqu'elles auraient été empêchées. Si les femmes n'apparaissaient pas dans l'histoire, c'est parce qu'elles avaient été trop occupées avec les enfants, le ménage et le ragoût de pommes de terre. C'est faux, écrivez-vous. C'est faux. Il existait des chasseresses à la préhistoire. La première narratrice connue, nous en parlions tout à l'heure, la première personne à avoir écrit « je » sur une tablette, n'est pas un homme mais une femme, Enedhuana, prêtresse sumérienne dont on a retrouvé les prières à la déesse Inanna. Des guerrières ont été retrouvées, enterrées l'épée à la main au nord de la mer Noire. Il y eut un temps où une femme sur quatre était guerrière. Une de nous quatre. Les choses se gâtèrent en Grèce, où les femmes commencèrent à être considérées comme des hommes en moins bien, physiquement et psychiquement, ce que vous appelez avec grâce la théorie du gâteau raté. Petit saut dans le temps, hein, je n'y dispose hélas que de quelques minutes pour cette chronique, je le sais, Charline. Petit saut dans le temps. Donc, les choses se gâtèrent plus encore à la Renaissance, qui ne fut pas une Renaissance pour tout le monde, puisque les grandes chasses aux sorcières envoyèrent des dizaines de milliers de femmes au bûcher. Puis vint la Révolution française, vous partagez, Titiou Lecoq, la vision de Geneviève Fraisse, qui croit en une démocratie exclusive. Si les noms et les vies d'Olympe de Gouges, de Théroigne de Méricourt, de Claire Lacombe, de Pauline Léon, si les noms de ces grandes femmes, car oui, il y en eut des grandes femmes et beaucoup, si leurs noms sont si peu connus, c'est qu'après la Révolution, la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen n'oublie pas les femmes, elle les exclut volontairement, comme ne faisant pas partie du champ des combattants, des actifs, de ceux qui laissent des traces. La théorie du gâteau raté à la vie dure, ça ne va pas s'améliorer avec le code Napoléon. La femme est donnée à l'homme pour qu'elle lui fasse des enfants, dit l'empereur. Elle est sa propriété comme l'arbre à fruits et celle du jardinier. Si encore Napoléon avait été animiste, ça aurait pu devenir intéressant, mais n'y pensez même pas. Vient l'invention de la jeune fille, les corsets, les armatures de métal, des crinolines qui empêchent de marcher. Alors, cet effacement des femmes fortes, courageuses, guerrières, quelle en est la cause? Biologie? Non. Vaste complot masculiniste? Même pas. Puissance du mythe et des histoires qu'on se raconte, répondez-vous. Nous sommes des êtres malléables, nous sommes les enfants de nos contes. L'inconscient collectif est une puissante machine performative qui reproduit ses attendus, écrivez-vous. Autrement dit, chaque fois que nous racontons les choses autrement, chaque fois que nous disons ce qui a été tu, nous reprenons le pouvoir de changer la réalité. C'est exactement ce que vous faites, Titiou Lecoq, en évoquant nos ancêtres. Disons, pour terminer, quelques noms à voix haute. Guerrière, jongleresse, ménestrelle, chauffournière, chevaleresse, autrice, enlumineresse, Enedhuana, Boadicée, Brunehaut, Marie de Vintadour, Louise l'Abbé, Jeanne Flore, Marie de Romieux, Marie de Gournay, Artemisia Gentileschi, Charlotte Corday, Catherine Bernard, Marianne Barbier, Olympe de Gouges, Théroigne de Méricourt, Claire Lacombe, Pauline Léon, Catherine Pocheta, Pauline Roland, Flora Tristan, Hubertine Auclair, Madeleine Pelletier, Charlotte Delbault, Simone If. Elle et tant d'autres étaient endormies dans notre inconscient. Voici que grâce à vous, elle s'éveille.
Isabelle Sorrente, merci.
Vous avez oublié Marlène Schiappa. Voilà. C'est dommage.
Ouais. Vous ruinez tout. Il y avait un beau moment, il y avait un beau silence.
Je
ne supporte pas le silence.
Ouais. Non, non.
C'est grave. Ça y est, l'ambiance s'allège.
Ouais. Merci beaucoup Isabelle Sorrente et Titiou Lecoq pour cet ouvrage. On aborde ce dernier thème ensemble. La bise fait la une du Parisien aujourd'hui en France. Comme un vestige du monde d'avant, a-t-on du mal à se défaire de cet élan? Est-il facile de le retrouver avec un cercle restreint, la famille, les amis, depuis la vaccination? Qui claque la bise à qui? Le consentement à présent est de mise pour la bise. Et dans certains cas, le baiser est libérateur quand même.
Au fond, qu'est-ce qu'on veut? Au fond, qu'est-ce qu'on cherche? Quand on se prend la tête, mais qu'est-ce qu'on attend? Des bisous.
Ben oui.
Oui, des bisous.
Des bisous de Philippe Catherine. Titiou Lecoq, est-ce que ça peut être un soulagement pour les femmes de se libérer de cette injonction?
Mais oui, mais pourquoi on pose la question? On avait dit, on arrête. Je me souviens de tous les articles voilà. Au moment où on a fait les gestes barrières et tout le monde a dit donc c'est fini et on ne revient plus là-dessus. C'est un acquis social. On arrête avec la bise.
Ouais.
Et je comprends pas là pourquoi d'un coup. Non, on a le droit de grève, on a le droit à pas faire la bise.
Bien sûr. Bah oui.
C'est, et, mais et peut ça y m'est arrivé l'autre jour. Un jeune homme s'est penché vers moi pour me faire la bise, on ne se connaissait pas et je me suis reculée
et vous avez déposé
une main comme si j'étais une personne désagréable. Mais je ne suis pas désagréable, je ne veux pas tomber malade et je n'ai pas envie de partager avec toi tes miasmes. Et voilà.
C'est terrible. Bleu-mire aussi.
C'est vrai. Mais est-ce que vous retrouvez parfois cet élan avec certains de vos proches, si toutefois vous êtes vacciné puisque vous êtes là?
Non, mais le hug, ça c'est bien pour les proches. Moi j'aime bien le câlin, le hug, on se prend dans les bras et tout. Ça, ça c'est super. Mais non, mais pourquoi ce truc-là avec les bouches? Enfin, c'est un petit peu dégoûtant en fait. Soyons clairs.
Est-ce que les femmes pourraient, est-ce qu'on pourrait serrer la main et s'approprier?
Moi j'ai une copine qui fait ça.
Masculin.
J'ai une amie qui fait ça depuis très très longtemps et autant dire que en 2002 c'était très mal vu à l'époque d'être une femme qui serre la main, mais elle se tenait à ça et je trouvais que ça lui donnait une certaine prestance. Quoi. Elle tendait sa main, ça déstabilisait la personne en face, enfin j'aimais bien.
Ah oui. Et alors dans cet article du Parisien aujourd'hui en France, il y a un sociologue qui s'exprime et dit le propre des rituels sociaux est de s'adapter à leur époque. La nôtre est à la reprise du contrôle de nos corps, le toucher est désormais sous surveillance. Alors, il donne bien sûr comme raison le Covid, mais aussi MeToo. Je me suis dit, voilà, Covid et MeToo, même combat alors dans ce cas.
Mais c'est pas complètement absurde. Non, mais je pense qu'il y a des choses qu'on acceptait, mais toutes les filles, on a vécu ça, se forcer à faire la bise bien à sûr. Quelqu'un alors qu'on n'a vraiment pas envie, quoi. Et voire même, on a une répulsion et on va au-delà de la répulsion pour le code social. Et on nous a appris ce truc-là. Et je pense que oui, il y a un effet MeToo, genre maintenant, on dit non à la bise.
Il y a peut-être un compromis à trouver, parce que les Belges n'en font qu'une, par exemple.
Non, ça marche.
Ça non,
et
d'accord.
Le compromis du consentement, ça ne marche
non,
pas. Ça n'est pas.
Je tente des trucs. C'est on a une mission de
non, ça marche pas.
Et voilà, le Covid a libéré les femmes de l'injonction sociale de la bise, et ça c'est pas mal. Juliette Arnaud, vous auriez un questionnaire. Alors c'est par Jupi Proust. On peut faire un par Jupi Balzac, j'imagine un tout petit peu.
Mais oui, bien sûr.
Bien sûr. Titiou Lecoq, allons-y.
Alors, sur l'échelle des historiens, historiennes célèbres qui va de 0 à 10, 10 étant Michel Perrault, 0 étant Laurent Deutsch. Un petit coup de pied de l'âne. À combien vous situez-vous?
Mais moi je suis pas historienne.
Oui, bon,
c'est ça qui est magnifique.
Mais Laurent Deutsch non plus.
Non mais moi j'ai pas dit que j'étais. Non mais c'est
Mettez-vous à côté de Michel Perrault. Mettez-vous à 9, vous serez à côté d'elle.
Moi avec Michel, oui.
Ah bon, voilà. Mais okay. Si c'est bien. Si vous pouviez vivre une journée dans la peau d'une autre Audrey, puisque votre prénom de baptême c'est Audrey, est-ce que ça serait plutôt une journée dans la peau de Audrey Hepburn, d'Audrey Tautou ou Audrey Pulvar? Pulvar.
Pardon. Oui,
je pensais à Poulevard.
Poulevard.
Audrey Poulevard,
ouais, je pense qu'elle a eu une sœur. Vie vraiment. Ouais.
Oui, c'est sa bien connue sœur. Si vous pouviez envoyer Éric Zemmour en exil dans une autre époque, vous l'enverriez où? Quelle époque, selon vous, lui serait la plus favorable?
La plus ou la moins?
La plus favorable.
La plus favorable?
Ouais. Où est-ce qu'il serait bien?
Lui, oh, bah, au 19e, oui, il serait bien au 19e.
Ouais.
Oui,
c'est la pire époque pour les femmes.
Ouais.
Ouais. Ouais, ouais. Et si vous, vous deviez partir en exil dans une autre époque, laquelle choisiriez-vous?
Alors, c'est marrant cette question qu'on pose souvent. Et en fait, j'ai remarqué quand les gens répondent, ils s'imaginent toujours qu'ils seraient prince ou princesse.
Oui.
Tu vois, et jamais ils disent, ah bah, je choisirais plutôt le Moyen-Âge. Oui, bah, en vrai, tu serais en train de cultiver des patates, quoi, quand même, concrètement. Et ils se projettent jamais là-dedans. Non, mais je suis bien, moi, dans mon époque. C'est... Non,
ok,
je suis pas...
Très bien. Belette, thon, poulette, truie, morue, gazelle. Pourquoi est-ce que les hommes, autant, ils veulent nous mettre dans un zoo? Ah non, non, vous cassez pas, c'est bon, j'ai trouvé. la mauvaise réputation du Moyen-Âge est-elle due, selon vous, à la Sainte Inquisition et à ses méthodes de torture avant-gardiste, aux épidémies de peste ou à ses prénoms de reines comme Ragnétrude, Vultrade ou encore Radegonde?
Mais c'est magnifique. Mais moi, je veux qu'on appelle nos enfants Radegonde ou Frédégonde. Okay. Non,
bon, je... Ragnétrude.
Oui,
il y a eu une reine qui s'appelait Ragnétrude.
Je comprends plus rien à cette émission. On va peut-être arrêter là.
Merci.
Non, ce sont des prénoms qui existent vraiment.
Bien sûr.
Hein.
Merci Juliette Arnaud pour ce questionnaire et merci Titiou Lecoq d'avoir passé ce moment avec nous. Je rappelle votre ouvrage Les Grandes Oubliées, pourquoi l'histoire a effacé les femmes, paru chez l'Iconoclaste. Allez-y les yeux grands ouverts, avec une préface de Michel Perrault, célèbre historienne. Merci les amis Isabelle Sorrente, Émeric Lompré, merci Guillaume Meurice et Juliette. Moi je vous dis à demain vendredi pour la dernière émission des vacances scolaires avant le retour au bahut lundi.
La bamboche, c'est terminé.
Ouais.